Bonjour, je vous remercie de votre participation à ce cours. Cette leçon est intimement connectée à la leçon précédente qui portait sur les caractéristiques des amplificateurs fonctionnant à la limite quantique. Donc je rappelle que ces amplificateurs ajoutent au signal le bruit minimum qui est requis par le principe d'incertitude d'Heisenberg. Donc là, dans la dernière leçon, on avait vu comment on pouvait calculer les caractéristiques de ces amplificateurs. Et je vais revenir sur ces caractéristiques aujourd'hui, mais en insistant sur les propriétés de symétrie de ces amplificateurs. Et la question centrale de cette leçon, ça va être une symétrie particulière qui est la directionnalité. C'est-à-dire que nous avons vu que ces amplificateurs paramétriques minimaux fonctionnent en réflexion. Et la question, ça va être de savoir si, en fait, on peut les rendre directionnels, c'est-à-dire rajouter finalement une caractéristique. Est-ce que, finalement, cette exigence ne va pas, en quelque sorte, nous contraindre à augmenter le bruit. En fait, on va voir, c'est une question qui reste encore assez mystérieuse, mais je vais essayer de donner quelques pistes dans cette leçon. Voilà. Et le séminaire d'aujourd'hui sera donné par David DiVincenzo, nous avons le plaisir d'accueillir, et qui va nous parler d'un sujet qui avait été abordé dans le cours de l'année dernière, la correction quantique d'erreur, mais qui est intimement lié à cette question du feedback, de la rétroaction, qui est le sujet du cours de cette année. Voilà le plan de cette leçon. Donc, je vais commencer par discuter la symétrie de la matrice de diffusion donc d'un amplificateur limité quantiquement. On avait terminé la leçon précédente sur ce schéma qui indique de façon graphique ce qui se passe dans ces amplificateurs minimaux. Donc le signal qu'on cherche à amplifier arrive par un des ports. Il y a deux ports en tout. Ce port ici... réfléchit, vu du point de vue du signal, ce port se comporte comme un réflecteur. Mais le principe de conservation de l'espace des phases, enfin, le fait que les commutateurs des champs dans ce port A et ce port B doivent être conservés par ce dispositif, fait qu'en fait, on ne peut pas amplifier ici sans ajouter un canal qui va être finalement introduire du bruit dans le système. Et donc finalement on a co-amplification de deux signaux. Et le caractère minimal de ce circuit vient du fait que il nous faut au minimum un port pour satisfaire la conservation dans l'espace des phases du volume dans l'espace des phases et finalement ce port ici est le port unique minimum. Alors, donc ça, c'est l'expression du champ sortant en fonction des deux champs entrants dans le port A et dans le port B. Et si on prend le module des champs au carré, ce qui est essentiellement l'opération qui est indiquée ici, on peut obtenir le bruit ajouté par l'amplificateur. Donc, finalement, on met ce facteur G... fois le nombre de photons à l'entrée en facteur, et on introduit ce facteur, le bruit ajouté par l'amplificateur, mais exprimé en nombre de photons, et donc on obtient bien la limite inférieure énoncée par le théorème de Caves, qui dit que le nombre de photons ajoutés par l'amplificateur, le bruit ajouté est exactement... équivalent à un demi-photon à la fréquence du signal dans la limite des grands gains. Vous voyez que quand le gain devient très grand, on a un demi. Si le gain est réduit à l'unité, eh bien, ce facteur est zéro. Il n'y a plus de bruit ajouté. Alors, il est intéressant de se poser la question suivante. Là, c'est les expressions précédentes donnaient les opérateurs de sortie en fonction des opérateurs d'entrée, mais on peut se poser la question de savoir comment se transforme un état quantique des champs. Alors, j'ai changé la topologie du diagramme ici, plutôt que de faire figurer le port A à gauche et le port B à droite, j'ai reconfiguré les fils du diagramme. Et là, j'indique les champs entrants, donc les champs A et le champ B. Et là, ici, c'est les champs sortants. Alors, la façon dont le calcul s'organise, c'est que le champ entrant, on peut le représenter comme un opérateur agissant sur le vide. Cet opérateur, ici, est une fonction des amplitudes de champ et de leurs amplitudes conjuguées. Et le champ sortant, eh bien, ça va être donné par deux éléments. L'opérateur, ici, transformé par la matrice, par les expressions qu'on a vues précédemment. Et il va y avoir aussi la transformée du vide. Le vide peut changer, peut être transformé dans un autre état lors du passage par ce circuit. Alors, ici, j'ai donné deux exemples. Par exemple, dans ce premier exemple, on a un photon, on a un état de Fock à un photon dans le port A, deux photons dans le port B. Et voilà comment un exemple concret de cette écriture ici. Je donne un autre exemple ici. Il s'agit d'un état cohérent de Glauber, noté alpha, où alpha est l'amplitude du champ classique équivalent, et puis zéro photon dans le port B. Et voilà comment s'écrirait le champ entrant. Alors, la façon dont s'organisent les calculs, eh bien, c'est très simple. Pour connaître les champs sortants, ici, il faut finalement, tout simplement, dans cette expression, remplacer ces opérateurs en fonction des opérateurs de sortie, c'est-à-dire inverser cette matrice. Et donc, cette opération est relativement triviale. Il y a un élément qu'il faut connaître une fois pour toutes, c'est la façon dont se transforme le vide. Et pour un circuit passif conservatif, par exemple une lame séparatrice, ceci serait trivial. Le vide se transforme en vide. C'est-à-dire, en fait, toutes les fois où on n'a pas de gain en nombre de photons, toutes les fois où le nombre de photons est conservé entre l'entrée et la sortie, le vide à la sortie est le même que le vide à l'entrée, c'est l'absence de photons. Mais ici, pour un amplificateur limité quantiquement, avec gain, eh bien, il nous faut une donnée supplémentaire si on veut connaître la façon dont se transforment les états. Donc, voilà. Donc, examinons un petit peu plus en détail cette matrice. Ici, vous voyez que, elle répète, chaque ligne répète un peu l'information qu'il y a dans la ligne précédente, à une nuance près quand même, qui sont ces facteurs de phase ici, qui sont importants pour une symétrie de la matrice que je vais discuter avant d'aborder la question de la façon dont se transforme l'état fondamental. On va voir que l'état fondamental est transformé dans un état non trivial, un vide squeezé, qui, finalement, vu de chaque port, constitue du bruit. Alors, on avait vu cette transformation des opérateurs la dernière fois. Là, j'écris la matrice de diffusion de l'amplificateur sous une forme un peu plus sophistiquée, où on fait figurer toutes les amplitudes concernées par la transformation, toutes les amplitudes qui sont connectées. Et vous voyez, il y a des paires d'amplitudes, en fait, ces deux amplitudes sont conjuguées. Quand on passe d'une fréquence positive à une fréquence positive, en représentation de Fourier, ici, en fait, ça correspond à prendre le complexe conjugué de l'opérateur. Donc, ces circuits actifs se caractérisent par le fait que une amplitude de sortie peut être une combinaison linéaire de l'opérateur équivalent à l'entrée et de son conjugué. C'est cette propriété de conjugaison qu'on avait vue la dernière fois. Et cette conjugaison donne des facteurs de phase. Vous voyez que du point de vue des amplitudes, on a toujours le module au carré, disons, de cet élément de matrice plus le module moins le module au carré de cet élément de matrice va toujours faire 1. On a une relation hyperbolique entre les modules des éléments de matrice, mais ces phases sont non triviales. Et elles sont connectées, en fait, ces phases s'obtiennent à partir de ces expressions qui font intervenir ce qui donne le caractère non trivial de la phase. C'est l'écart de la fréquence des signaux à la fréquence de résonance des ports. Oméga A et oméga B sont les fréquences de résonance des ports, et donc ces facteurs état qui sont complexes apportent une phase qui est due à l'écart à résonance. Et ces expressions ont une symétrie qui garantit en fait la causalité. C'est le fait qu'on ne peut pas avoir de signal à la sortie avant qu'on ait introduit un signal à l'entrée est une symétrie fondamentale qui se traduit donc par la dépendance particulière de ces facteurs de phase sur la fréquence. Alors donc la conservation des commutateurs par cette matrice, c'est quelque chose que on avait vu la dernière fois. Et là je veux faire une remarque très fondamentale pour un autre aspect de cette matrice, qui est la présence donc dans ces éléments de matrice de la phase de la pompe. La phase de la pompe qui est ici phi, qui est gros et la puissance de la pompe en unité non dimensionnée, n bar c ici, c'est le nombre de photons dans le canal de la pompe. G3, c'est l'élément de matrice de l'interaction à trois corps. Donc, si ici on a une expression sans dimension qui nous donne la puissance de la pompe, l'amplitude de la pompe a un facteur de phase qui intervient dans ces éléments de matrice. Et lorsqu'on va changer la fréquence de la pompe, on va en fait changer la façon dont la conversion de fréquence s'effectue entre les signaux à la fréquence image et à la fréquence du signal. Et c'est quelque chose qu'on va exploiter par la suite. À partir de la matrice que je viens de donner, par une transformation assez conventionnelle, que je n'explique pas ici, c'est un calcul tout à fait standard, on peut obtenir la matrice U, qui est la matrice qui nous donne le nouveau vide. Donc si on introduit le vide à l'entrée de l'amplificateur, on va avoir un vide différent à la sortie. Et pour vraiment vous donner... Je ne montre pas ces calculs, mais U est une espèce de, si vous voulez, U est une façon de concevoir U, c'est un peu la racine, une espèce de racine carrée de cette matrice. Et le résultat est indiqué ici, il est très simple. Donc le vide de sortie est un vide qui contient un nombre de photons non nuls quand G est supérieur à 1. Vous voyez, pour tout G supérieur à 1, eh bien, on aura une superposition cohérente d'états très particuliers dans lesquels le nombre de photons dans le port A est égal au nombre de photons dans le port B. C'est-à-dire que si vous mettez des photomultiplicateurs à la sortie, si vous détectez n photons sur le port A, eh bien vous devez détecter exactement le même nombre de photons sur le port B. Et il y a un facteur de phase ici entre toutes ces amplitudes qui, là, on retrouve encore la phase de la pompe. Alors, ce vide de sortie est extrêmement spectaculaire à mon avis, parce que c'est un état qui a une entropie nulle. En fait, c'est un état pur. Donc, on part d'un état pur à l'entrée, le vide, zéro photon. Et à la sortie, on a un état tout à fait déterministe, avec des amplitudes et des phases bien déterminées, mais qui contient un nombre fini de photons. Donc, l'entropie reste bien nulle. Donc, on retrouve le caractère tout à fait, cet amplificateur, ce circuit conserve l'information, il ne dégrade pas l'information, mais il accroît l'énergie moyenne du signal. Cet état ici est très paradoxal, c'est un état pur, mais un état intriqué, donc les deux voies, les deux ports ici sont intriqués. L'entropie globale est zéro, mais si vous prenez chaque port séparément, et que vous effectuez la trace sur les degrés de liberté du port que vous avez laissé de côté, eh bien, aux surprises, vous trouvez un état thermique. C'est-à-dire, vu de chaque port, eh bien, l'amplificateur se comporte comme une espèce de corps noir, une source de chaleur. Et on pourrait imaginer que vous envoyez ces signaux à deux endroits éloignés de l'univers, et dans chacun de ces parties de l'univers, vous n'avez aucun moyen de savoir que tout ce que vous avez fait, c'est pomper le vide. Vous avez un signal complètement aléatoire, thermique, donc d'entropie maximum. Donc c'est très paradoxal. Pris ensemble, ces deux ports ont une entropie nulle, mais pris séparément, ils ont une entropie maximum pour l'énergie qui vous communique. Bon, ça, c'est une propriété quantique on peut dire une caractéristique fondamentale de la mécanique quantique, c'est que l'entropie d'un global d'un système peut être inférieure à l'entropie de chacun de ces sous-ensembles, ce qui est interdit en mécanique classique où l'entropie est une fonction convexe. Vous pouvez pas avoir l'entropie du tout peut pas être supérieure. L'entropie du tout ne peut pas être inférieure à l'entropie d'une des parties. En mécanique quantique, c'est tout à fait possible et c'est maximalement réalisé ici. Donc voilà cet état. Donc la connaissance de cet état, de la transformation du vide, permet de calculer la transformation de n'importe quel état par l'amplificateur. Une question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe dans un amplificateur paramétrique dégénéré lorsqu'on a, donc c'est quelque chose qu'on a vu plusieurs fois, l'amplificateur dégénéré correspond au fait que les ports A et B, en fait, sont confondus. C'est le même mode. Dans ce cas-là, la matrice est légèrement différente. Elle a une symétrie supplémentaires, il y a moins de variations dans les facteurs de phase. Je rappelle ici que dans ce cas-là, quand on n'a que des opérateurs correspondant à un port, et là ils sont donnés pour une fréquence particulière, si on introduit ces opérateurs de quadrature en phase et hors phase, qui sont des sommes de ces opérateurs à différentes fréquences, eh bien, la matrice ici se simplifie. On peut montrer que, donc, dans ce cas-là, dans le cas de l'amplificateur dégénéré, l'amplitude en phase est simplement agrandie par un facteur E puissance lambda. par rapport à l'amplitude en phase à l'entrée, et l'amplitude hors phase, elle, est rétrécie. Donc, avec ce mode unique, en fait, n'a pas de bruit ajouté. Mais le prix qu'on paye, c'est que les différentes composantes du signal ont des gains différents. C'est-à-dire que si on connaît à l'avance la quadrature qui porte l'information, si on sait que l'information est portée par la composante en phase, eh bien, ça va très bien, on amplifie. Par contre, on va masquer toute l'information qui est contenue dans la composante orthogonale. Et dans ce cas-là, le vide se transforme aussi de la même façon en un autre vide d'amplitude, d'entropie nulle. Et cette fois-ci, eh bien, au lieu d'avoir un nombre de photons égal dans les deux modes de sortie, puisque ces deux modes en fait sont confondus en un mode, on obtient quelque chose d'assez logique qui est le fait que, eh bien, ce vide de sortie contient qu'un nombre pair de photons. Il n'y a pas de nombre impair de photons dans le mode de sortie, ce qui est un peu l'équivalent d'avoir des nombres de photons égaux dans deux modes. Il y a un autre petit facteur un peu différent. Si vous comparez cette expression à, disons, l'expression précédente ici, vous voyez que non seulement il y a un nombre pair de photons, mais vous avez une symétrie un peu différente pour cet état. Voilà, donc ça clôt le chapitre de la transformation des états par ces dispositifs. Maintenant, je voudrais aborder la question de la directionnalité de cet amplificateur. Oui. Oui, alors donc, oui, cette écriture, c'est exactement ça. Donc, par exemple, cet opérateur, c'est bien l'opérateur de déplacement du vide dans le port A par la quantité alpha. Et les déplacements sont transformés par l'amplificateur de manière très simple. Eh bien, si un état peut se voir comme un déplacement alpha ici, eh bien, à la sortie, on va avoir un déplacement dont la formule ça va être une combinaison linéaire des déplacements qui dans le mode A et dans le mode B. Donc il y a toute cette la partie classique ici, cette partie opérateur est en fait peut se comprendre tout à fait classiquement. Donc un champ cohérent va être transformé par cet amplificateur en un autre champ cohérent dont les amplitudes sont données par des formules essentiellement classiques. Ici, il suffirait de remplacer les A et les B par des alpha et des bêta. Donc, la symétrie maintenant que je voudrais discuter, c'est cette symétrie de directionnalité. Donc, à ce point, dans la description des caractéristiques de l'amplificateur, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a une boîte qui prend deux ports et qui les amplifie, mais qui les co-amplifie. Pour avoir un amplificateur normal, il faut que la voie image ici soit connectée à un port adapté. C'est-à-dire, essentiellement, on jette tous les photons de la partie des photons de pompe qui sont nécessaires pour l'amplification. Ici, pour avoir un amplificateur ordinaire, c'est-à-dire avec une sortie qui est différente de l'entrée, il faut utiliser ce qu'on appelle un circulateur, c'est-à-dire un composant qui sépare le signal d'entrée et le signal de sortie. ce composant circulateur, c'est quelque chose que donc, je vais discuter en détail. Mais on voit tout de même ici apparaître quelque chose de très important, c'est que pour avoir un amplificateur limité quantiquement et directionnel, c'est-à-dire avec une entrée et une sortie qui soient des ports différents, il faut que de manière interne, il y ait en fait trois ports. Donc on ne pourra pas avoir une matrice aussi simple que j'ai indiqué, qui aura en fait, qui sera celle d'un amplificateur minimal et directionnel. En fait, la difficulté de connaître toutes les matrices ici, puisque en fait on a trois ports et qu'on en fait il y a deux composantes par signal. En fait, on voit que la matrice minimum d'un amplificateur directionnel, c'est une matrice 6 par 6, et on ne connaît pas bien les contraintes sur. Enfin, là, on connaît les contraintes sur cette matrice, on ne sait pas la réaliser de manière, en quelque sorte, la plus minimale possible, à part un schéma de ce type, où finalement on sépare la directionnalité ici de la fonction de directionnalité de la fonction d'amplification. Une petite remarque aussi importante. Donc, ici, dans l'amplification non dégénérée, on a une fonction de type ampli opérationnel. Si on met un amplificateur dégénéré, donc un amplificateur paramétrique dégénéré, qui va être sensible à la phase, on n'aura pas ce port de sortie. Mais cette fonction de l'amplification dégénérée, donc sensible à la phase, peut être récupérée ici. Si on prend ce port de sortie, qu'on le continue à le garder, eh bien, si on le recombine avec ce signal de sortie, eh bien, on pourra récupérer cette information. Donc ici, on voit qu'il y a une correspondance intéressante entre l'amplification paramétrique dégénérée qui est sensible à la phase et dans laquelle on ne rajoute pas de bruit au signal et un amplificateur non dégénéré dans lequel on ne jetterait pas le signal image mais on continuerait à le garder dans la suite du traitement du signal. Donc je rappelle que si on utilise un amplificateur disons ordinaire disons à transistor et qu'on cherche à l'utiliser pour comme lecture d'un qubit, eh bien on a déjà besoin de ces circulateurs. On a déjà besoin même pour une boîte qui est directionnelle d'employer ces composants directionnels parce que l'amplificateur à transistor lui-même a un bruit assez important à l'entrée, un bruit qui est, disons, de l'ordre de, disons, du bruit rajouté à la sortie, qui est renvoyé vers le dispositif que l'on cherche à mesurer. Et donc, de toute façon, on a besoin de ce type de valve déjà pour l'amplification. Là, si on imagine de mettre un préamplificateur donc limité quantiquement pour la détection des signaux de lecture d'un bit quantique, c'est ce que nous a expliqué Irfan Siddiqui dans le séminaire de la semaine dernière. Eh bien, on a besoin d'un troisième circulateur pour séparer les signaux d'entrée et de sortie de ce préamplificateur. Donc, vous voyez, il y a finalement la lecture d'un bit quantique ou d'une manière générale, disons une mesure limitée quantiquement, est très gourmande en circulateur. Oui. Oui, j'en arrive. Je vais décrire maintenant ce qu'est un circulateur. Donc là, le point que je voulais, disons ce que je voulais indiquer ici, c'est que ces mesures limitées quantiquement sont gourmandes en circulateur, et je crois que c'est bien de voir un peu de voir à quoi il ressemble. Donc voilà ce composant, donc avec trois ports, voilà à peu près la taille. Donc par rapport à ces circuits intégrés quantiques, c'est extrêmement volumineux. Ça contient un champ magnétique, comme vous le disiez. Et en fait, voilà les caractéristiques typiques. Donc on a une bande passante d'environ 4 GHz et on a des pertes assez minimum, en général inférieures au dB dans la bande. Et les circulateurs sont aussi caractérisés par ce qu'on appelle l'isolation. L'isolation, c'est par rapport à ce schéma. Donc, il y a une flèche qui indique dans le sens giratoire du circuit. Ces flèches ne sont pas absolues. Il y a un petit peu de fuite. Par exemple, des signaux qui viennent par ici sont obligés de faire le tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ici, mais il y a un peu une fuite dans le sens contraire, et cette fuite se situe aux alentours, disons, de 15-20 dB. Alors, la question que de nombreuses personnes qui travaillent dans ce domaine se posent, c'est comment, finalement, intégrer ces circuits. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un champ magnétique pour séparer les signaux? En d'autres termes, comment on réalise une valve pour la lumière? Voilà un petit dessin qui illustre cette idée de non-réciprocité. Hein, vous voyez cette porte. En principe, il serait possible de fabriquer une porte qui laisse passer la lumière dans un sens, ici, dans cette direction, mais qui serait opaque dans l'autre direction. En fait, qui serait... ici, on cherche des éléments conservatifs, non dissipatifs. Donc, vous avez une porte qui laisse passer la lumière parfaitement dans un sens, mais qui est complètement réfléchissante dans l'autre direction. C'est ça, finalement, c'est ça que réalise le circulateur. Alors, le circulateur commercial est basé sur la rotation de Faraday. Donc, si vous avez un milieu, disons, ferromagnétique, qui présente une résonance ferromagnétique à la fréquence de travail de vos signaux, eh bien vous avez ce phénomène extrêmement spectaculaire. Si vous envoyez une onde électromagnétique avec une polarisation ici indiquée par cette flèche bleue dans ce matériau, eh bien dans la traversée du matériau, la polarisation tourne dans un sens qui est donné par finalement, la précession des spins, les spins vont précesser dans le matériau. Les spins précessent dans un sens déterminé par le champ. Et la rotation de Faraday permet de séparer les signaux qui circulent dans un sens et dans l'autre, parce que la rotation suit toujours le mouvement des spins. Donc, cet effet brise la loi du retour inverse de la lumière. Alors, suivons ce qui se passe. Donc, si vous traversez le matériau en suivant la flèche verte ici, votre polarisation tourne vers la gauche. Maintenant, quand vous allez repasser en sens inverse, vous n'allez pas en quelque sorte annuler l'effet précédent, vous le renforcez. Lorsque vous circulez dans l'autre sens, vous tournez encore plus. Donc, vous voyez, après un double passage, vous n'êtes pas revenu dans l'état initial. Ça, ça brise une caractéristique très importante des instruments d'optique ordinaires. Le principe du retour inverse, c'est vous voyez l'œil qui vous voit. Bon. Si vous voyez un œil, alors cet œil vous voit. Ça, c'est vrai pour les instruments ordinaires comme les miroirs ou les lentilles, mais ce n'est pas vrai pour lorsque vous traversez un milieu Faraday. Il y a des fois une confusion entre l'effet Faraday et la rotation de la polarisation de la lumière par un milieu chiral. Je m'arrête deux minutes ici pour vous montrer la différence qu'il y a entre un milieu qui fait tourner la rotation, qui fait tourner la polarisation de la, de la lumière de manière non réciproque, c'est-à-dire que les deux sens de parcours du milieu ne conduisent pas à un état qui... il n'y a pas retour à l'état initial, alors qu'ici, dans la traversée d'un milieu chiral, un milieu qui, a une, qui se comporte un peu comme une vrille, eh bien, ce milieu ici est réciproque. Vous faites tourner la polarisation, mais lorsque vous revenez en arrière, eh bien, la polarisation tourne encore, mais dans l'autre sens cette fois-ci, et vous revenez dans l'état initial. Ça, c'est un effet bien connu. Ça a été le premier travail de le premier travail de Pasteur. Le génie de Pasteur s'est exprimé en montrant que cet effet chiral est une propriété des molécules biologiques. Alors, j'ai indiqué comment finalement un milieu ferromagnétique particulier, une résonance ferromagnétique, permettait de faire tourner la polarisation. Comment on passe d'un effet de rotation de polarisation à un effet de valve? Eh bien, c'est très simple. C'est en utilisant des polariseurs. Alors ici, voilà, c'est démontré dans le cas d'une, disons, de guide d'onde. Imaginez que vous avez une onde électromagnétique polarisée verticalement, donc qui se propage dans ce guide d'onde. J'ai dessiné le champ électrique. Hein, le champ électrique est perpendiculaire à la plus grande direction du guide d'onde. Donc, à la traversée du milieu ferromagnétique, le champ électrique tourne. Et si vous mettez un polariseur correctement orienté à la sortie, eh bien, l'onde va pouvoir traverser le dispositif. Donc, vous allez bien du port 1 au port 2. Par contre, si vous repartez en sens inverse par le port 2, ici, eh bien, votre vecteur de polarisation va tourner. Ici, on fait en sorte que la rotation de la polarisation soit exactement 45 degrés. Et finalement, au retour, vous allez maintenant avoir une polarisation qui va être exactement contraire à celle qu'il faut pour ce port 1. Et au contraire, vous allez sortir par le port 3. Donc, ce schéma ici réalise un circulateur à quatre voies que j'indique ici. Donc, si vous analysez toutes les autres combinaisons, vous verrez que eh bien, vous passez du port 1 au port 2, vous passez du port 2 au port 3, etc. Donc, vous avez un sens giratoire imposé ici pour ce composant. Voilà, ça c'était la façon dont on incorpore la directionnalité dans un circuit micro-ondes de façon passive. Donc il faut avoir un milieu ferromagnétique, il faut un champ magnétique. Et c'est très difficile d'éliminer la dissipation. La dissipation n'est que de 1 dB, mais vous voyez, quand vous mettez un certain nombre d'étages de cette façon, si vous accumulez de la dissipation. Donc, qui dit dissipation dit bruit. Donc, en fait, cette voie est non seulement coûteuse en espace et en ressources, mais en plus, elle conduit à contaminer finalement les signaux avec du bruit. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut remplacer un milieu Faraday dans un champ magnétique par un dispositif qui est actif et conservatif, c'est-à-dire est-ce qu'on peut vraiment séparer les deux directions de propagation par des effets purement élastiques? Alors, la réponse est oui. On ne connaît pas vraiment cette question de manière complète, mais on a certains éléments de réponse. On a certaines preuves d'existence de circuits. Ils ne sont pas optimaux. On aimerait qu'ils aient plus des meilleures performances, plus de bandes passantes, par exemple. Et donc, je voudrais passer quelques minutes ici à vous expliquer ces preuves de principe. Je pense que très rapidement, dans quelques années, on aura des circuits beaucoup plus optimisés qui fonctionneront. Enfin, voilà, je vais essayer de vous convaincre que ça peut marcher. On peut, avec, de manière sans bruit, de manière complètement non dissipative, réaliser cette fonction de circulation. Alors, voilà comment ça... Voilà une proposition. Vous avez ici... ici, ça, c'est la version... Deux versions d'une lame séparatrice micro-ondes. Cette partie s'appelle, dans le langage micro-ondes, un hybride 90 degrés. Et là, on a un hybride 180 degrés. 90 degrés, pourquoi ? Parce que, finalement, si vous arrivez de 1, vous pouvez aller tout droit ici ou passer sur cet autre canal, mais vous avez un déphasage de pi sur 2. Même chose dans la branche réciproque. Le coupleur hybride 180 degrés est asymétrique. Ici, vous avez un déphasage de pi sur cette branche. La règle, c'est que de toute façon, vous ne pouvez pas avoir un déphasage nul sur toutes les branches. Il faut que la somme des déphasages fasse pi. Mais votre pi, vous pouvez le mettre sur une branche ou sur deux branches ici. Finalement, vous avez un montage interférentiel ici avec deux lames séparatrices. Et vous intercalez sur une des voies ici ce composant qui est un gyrateur actif. C'est-à-dire qu'il se comporte de la façon suivante. Plutôt que de tourner la polarisation, ici on est en onde scalaire, on serait en câble coaxiaux ici. On ne tourne pas la polarisation, il n'y a pas de polarisation, mais tout ce qu'on fait, c'est un déphasage de moins pi sur 2 quand on avance ici, de plus pi sur 2 ici quand on passe dans cette branche en inverse. Ces deux lames séparatrices ici sont finalement des... Ce que vous avez fait ici, c'est un interféromètre de Mach Zehnder. En langage micro-ondes, un interféromètre de Mach Zehnder. Vous avez simplement inséré dans un des bras de l'interféromètre de Mach Zehnder ce composant qui déphase de manière différente suivant qu'on le parcourt dans un sens ou dans l'autre. Si je vous rappelle que si vous prenez un morceau de câble coaxial, eh bien, le déphasage que vous accumulez dans un sens est égal au déphasage que vous accumulez dans l'autre sens. C'est finalement cette différence dans les déphasages qui est difficile à accumuler. En ce qui concerne ces lames séparatrices ici, on chip, c'est quelque chose qui a déjà été réalisé dans le groupe de Konrad Lerner à Boulder. C'est tout à fait possible de réaliser ces composants avec un très bon contrôle. Donc on est finalement, on se ramène à la réalisation de ce module ici. Ah, oui. Je suis passé peut-être effectivement un peu vite. La seule façon d'avoir, à ma connaissance, dans le domaine micro-ondes, d'avoir cet effet Faraday, c'est donc d'utiliser la résonance ferromagnétique de certaines ferrites. Et cette résonance ferromagnétique, où vous avez les spins du matériau précèse dans un champ magnétique, en fait, c'est un effet qui est toujours dissipatif. Il n'y a pas c'est relativement peu dissipatif, d'où la dissipation moins de 1 dB, mais c'est difficile d'imaginer un matériau dans lequel cette résonance ferromagnétique serait parfaitement non dissipative. C'est peut-être quelque chose qui peut s'améliorer, mais... conceptuellement... La participation... Le champ magnétique, lui, il n'est absolument pas dissipatif. On pourrait d'ailleurs... Non, il ne participe pas du tout à la dissipation. Le champ magnétique est d'ailleurs fourni par un aimant permanent. Donc, lui, il ne s'use pas. Mais par contre, cette résonance ferromagnétique, elle, est relativement... C'est un phénomène dans lequel interviennent des électrons normaux, pas des électrons supraconducteurs. C'est une technologie vraiment très, très consommatrice de place. Vu le nombre de circulateurs nécessaires dans les circuits, il est difficile d'imaginer qu'on peut multiplier ce type de composant dans un ordinateur quantique, par exemple. Donc, on en est là. Donc, comment ça marche? Comment l'incorporation de cet élément dans un interféromètre de Mach Zehnder permet de réaliser cette fonction de circulation? Regardons un exemple de propagation d'ondes. La matrice de scattering de ce composant, en fait, c'est ce qu'on cherche à montrer ici. On cherche à montrer qu'elle a une fonction de circulation. Il y a déjà un certain nombre de zéros qui sont obtenus par l'inclusion de ces lames séparatrices. Et par exemple, on va regarder ce qui se passe dans ces deux positions en envoyant une onde ici en 1. Alors cette onde peut aller toute droite ici et se séparer. Si ces chemins sont empruntés, on a une différence de phase de 0 ici. Par contre, si on emprunte ce chemin, on commence par prendre un facteur de phase pi sur 2 ici à la traversée de cette première lame séparatrice. Et puis, dans ce chemin, on annule la phase. Et à cette traversée de la deuxième lame séparatrice, vous voyez qu'ici, on a une interférence destructrice. Donc, si on envoie un signal en 0, on va en 2 et on ne va pas en 4. Et donc, on peut remplir ces deux éléments. Et en fait, si on effectue cet exercice pour toutes les autres combinaisons, eh bien, on voit qu'on va avoir... l'interférence va se passer de façon différente. Par exemple, il est facile de se convaincre qu'on va aller de 2 en 3. On ne va pas revenir en 1, puisque si on part de 2, ici... Eh bien, vous voyez que cette facteur de phase de maintenant de plus pi sur 2 dans cette voie va pouvoir s'ajouter à ce facteur de phase de pi sur 2 ici. Donc, finalement, on a une interférence constructrice quand on part de 2 vers 3. Et ainsi de suite, on peut finalement obtenir tous ces éléments. Et vous voyez que la matrice d'un circulateur a cette caractéristique particulière, la matrice n'est pas égale à sa transposée. Donc, on n'a pas symétrie par rapport à la première diagonale. Ça, c'est ce qu'on appelle donc le caractère directionnel du composant ou son caractère non réciproque. Certaines personnes passent de bris de la symétrie par invariance du temps, par renversement du temps, et c'est, à mon avis, c'est une erreur, puisque si on inverse le temps dans le dispositif, on a une matrice parfaitement identique à celle qu'on a au départ. C'est un peu très artificiel de décrire cet effet en disant que l'invariance par renversement du sens du temps est brisée. En fait, ça ne va apparaître que si vous vous interdisez de renverser le temps dans un des composants. Par exemple, vous interdisez de renverser le temps dans l'aimant, eh bien, effectivement, tout semble... Vous avez une violation apparente de l'invariance par renversement du sens du temps, mais c'est, à mon avis, une façon artificiel et assez erroné de décrire ce qui se passe. Le renversement du temps sera associé à la conjugaison de la matrice de scattering. Ici, il n'y a pas d'opération de conjugaison. On a simplement une matrice qui n'est pas égale à sa transposée, une matrice qui n'a pas de symétrie par rapport à sa diagonale. Donc, comment réaliser ce composant, ce girateur ? Eh bien, on peut prendre cet amplificateur limité quantiquement qu'on a déjà examiné, par exemple dans son implémentation avec quatre jonctions, ce modulateur en anneau Josephson. Précédemment, j'avais indiqué qu'on pouvait rajouter des capacités ici sur le modulateur en anneau. Ici, dans l'exemple que je montre, on a simplement des résonateurs lambda sur 2 et qui réalisent les deux modes, le mode signal et le mode idler. Et cette fois-ci, on va utiliser ce circuit. C'est le même circuit qui nous donnait de l'amplification. Maintenant, on l'utilise de façon en convertisseur pur. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre la fréquence de pompe comme la somme de la fréquence du signal et la somme de la fréquence image, maintenant, la fréquence de la pompe est égale à la différence. Et là, il y a une différence essentielle qui se produit, c'est qu'il n'y a plus conjugaison. Dans cette boîte, précédemment, dans ces flèches ici correspondaient à des doubles traits, qui correspondaient à une opération de conjugaison. Ici, dans ce mode de fonctionnement du système, il n'y a pas conjugaison, il ne va pas y avoir de gain en photons. En fait, cette boîte est un simple miroir, à ceci près qu'un miroir semi-réfléchissant, à ceci près qu'il y a conversion de fréquence. On n'a pas les mêmes fréquences d'un côté ou de l'autre. C'est le caractère actif de ce circuit est manifesté par le fait qu'on change de fréquence, mais on ne change pas le nombre de photons. Le modulo carré de l'amplitude de réflexion plus le carré du facteur de transmission, de l'amplitude de transmission, est égal à 1. Si on regarde les facteurs de phase, la façon dont ils évoluent en fonction de l'écart à la résonance ici, qui est indiqué par ces facteurs, eh bien, on voit que par rapport aux expressions de l'amplificateur, au lieu d'avoir un dénominateur qui peut s'annuler, au lieu d'avoir une divergence du facteur de réflexion et du facteur de transmission, eh bien, ces quantités restent bornées. Et il y a un point particulier, très intéressant. Lorsque l'amplitude de la pompe sans dimension, ici ρ, lorsque ce facteur ρ compense exactement ces facteurs de résonance ici, des modes A et B, eh bien, ces amplitudes de réflexion vont être égales à 1 et le facteur de réflexion va être 0 et le facteur de transmission sera égal à 1. Et ce circuit, n'ajoute aucun bruit. Il convertit simplement les photons à l'entrée vers des photons plus grands ou plus petits à la sortie. Par exemple, c'est un moyen de refroidir. Ce genre de processus est très utile pour le refroidissement. Mais ici, on va pas utiliser l'aspect pompe à chaleur de ce mode. On va utiliser le fait que le facteur de transmission ici porte l'empreinte de la phase de la pompe. C'est ça qui va être très utile ici. Le facteur de réflexion ici, comme ρ est élevé au carré, ne porte absolument... oublie la phase de la pompe. Il n'y a pas de trace de la phase de la pompe dans le facteur de réflexion, dans le coefficient de réflexion. Par contre, dans le coefficient de transmission, où ρ ici arrive en amplitude, eh bien, la phase de la pompe va se marquer. Donc je pense que ça devient là assez simple. Vous voyez que si vous mettez deux circuits tête-bêche, vous allez transformer cette influence de la pompe en finalement un aspect non réciproque. Si vous prenez un signal à l'entrée, que vous le convertissez en fréquence, vous allez introduire un déphasage de phi 1 dans ce sens et moins phi 1 dans ce sens. Et donc, finalement, à la traversée du dispositif, vous allez accumuler un déphasage de phi 1 moins phi 2 dans un sens, mais de phi 2 moins phi 1 dans l'autre sens. Ici, j'ai indiqué les coefficients de transmission et de réflexion pour le dispositif complet. J'ai appliqué simplement la composition des réflexions et des transmissions. Tout ça pour simplement indiquer qu'il n'y a aucun problème, il ne va pas y avoir ici du fait qu'il n'y a aucun gain en photon, il ne va pas y avoir de boucle ici qui est pathologique, tout va très bien se passer. Lorsqu'on va prendre l'amplitude de la pompe telle que pour les deux dispositifs, le facteur de coefficient de réflexion s'annule, eh bien, on va avoir ce qui nous intéresse, c'est-à-dire un coefficient de transmission qui fait intervenir la différence entre les deux phases de pompe de manière inverse ici dans ces deux expressions. Et on peut donc obtenir, si on règle, vous voyez, ces expressions ici nous indiquent que si on prend si on pompe ces deux parties de circuit en décalant les deux phases des deux pompes de pi sur 2, eh bien on fabrique ce gyrateur qui nous permet de construire le circulateur. C'est un circuit qui, disons, au moins sur le papier, semble tout à fait fonctionner. Voilà les caractéristiques du circulateur complet. Donc, quand vous réglez cette différence de phase entre les deux pompes à exactement 90 degrés, vous voyez que vous pouvez avoir une isolation de 20 dB et dans une bande passante d'environ 10 MHz, qui suffit pour la lecture des bits quantiques. À long terme de ce genre de circuit, c'est que, en fait, le sens de rotation est déterminé de manière active et donc peut s'inverser à volonté très rapidement. Donc, si vous changez la différence de phase des deux pompes, eh bien, vous changez le sens de circulation. Vous pouvez tourner autour du circuit dans le sens contraire. Ça peut être intéressant parce que vous pouvez commuter très rapidement. Le trajet des signaux. Donc, il me reste très peu de minutes, mais je voudrais discuter très rapidement une conséquence de ces symétries de l'amplificateur et, poser la question, est-ce que ces amplificateurs limités quantiquement, donc qui rajoutent le minimum de bruit au signal, est-ce qu'ils, dans un sens, ils sont équivalents aux photomultiplicateurs? Donc, voilà les caractéristiques des rayonnements qu'utilisaient en optique, donc des longueurs d'onde extrêmement faibles, hein, très petites. Ici, dans le domaine micro-ondes, on bénéficie de longueurs d'onde bien plus grandes et donc on a un bien meilleur contrôle sur la fonction d'onde des signaux. Mais on a plutôt des amplificateurs. Ici, en optique, c'est plutôt le photodétecteur ou le photomultiplicateur qui domine. Est-ce qu'il y a, dans un sens, une équivalence entre ces deux dispositifs? Une façon de voir le problème, c'est le suivant. Le caractère, disons, photodétection, détection d'un photon unique, est illustré par un effet qui s'appelle l'effet Hambury-Brown et Twiss, qui avait été utilisé au départ pour, en fait, en astronomie, pour augmenter le pouvoir séparateur des télescopes. Et cet effet est un effet canonique de l'électrodynamique quantique. C'est des corrélations entre les signaux de deux photomultiplicateurs qui permettent d'affirmer que la lumière est vraiment quantifiée en photons. La façon dont ça marcherait dans un circuit micro-ondes si on avait des photomultiplicateurs serait la suivante. Si vous avez une source à un photon et que vous l'envoyez sur une lame séparatrice, donc dans notre langage micro-ondes, j'ai choisi ce composant le coupleur hybride. Donc cet autre port ici est connecté au vide de photons, donc une résistance 50 ohms à température nulle. Normalement, dans cette expérience, eh bien, vous allez détecter un photon sur une voie, mais jamais sur deux. Donc vous aurez une anticorrélation entre les signaux qui sont obtenus après les photomultiplicateurs. Alors, ces signaux peuvent se représenter de la manière suivante. Les amplitudes de champ à l'entrée sont données par ces deux opérateurs, A et B. À la sortie de ce coupleur hybride, vous avez la somme et la différence des deux amplitudes. Les photomultiplicateurs prennent le module au carré des deux amplitudes, mais enfin un module au carré quantique où finalement l'opérateur ici C arrive avant C. Donc c'est une moitié en quelque sorte du module au carré. Cet opérateur compte le nombre de photons. Si vous avez zéro photon, vous aurez zéro ici. Et le dispositif de corrélation, c'est un mixeur idéal qui finalement fait le produit de ces opérateurs ici. Donc la sortie de ce mixeur idéal serait finalement ce produit PQ qui en fait contient quatre opérateurs. Et si vous faites les calculs, si vous suivez toutes ces amplitudes, ici en faisant bien sûr... Et une remarque très importante, c'est que ces deux opérateurs P et Q commutent. Ici, il s'agit de voies en parallèle qui commutent. Eh bien, vous pouvez montrer que la corrélation entre ces deux signaux est en fait une anticorrélation dans la limite où vous n'avez qu'un photon unique ici. Si vous avez un très grand nombre de photons sur chaque voie, en fait, ce n'est pas une anticorrélation que vous avez, c'est une corrélation. Mais si vous en mettez à l'entrée de ce dispositif un champ tel que vous avez zéro photon ici dans B et exactement un photon dans A, eh bien, la fonction de corrélation, qui est donc la moyenne de ce signal PQ moins la valeur moyenne de P, fois la moyenne de Q divisé par ce produit des valeurs moyennes, eh bien, vous voyez que vous avez une anticorrélation parfaite. C'est-à-dire que si vous détectez un photon sur cette voie, eh bien, vous ne détecterez jamais de photon sur cette voie, et réciproquement. C'est ce qui nous permet d'affirmer que la lumière est micro-ondes quantifié, c'est-à-dire que l'énergie passe soit d'un côté, soit de l'autre. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si, au lieu de photomultiplicateurs, vous avez des amplificateurs suivis de diodes? Après tout, on peut se dire, eh bien, finalement, un amplificateur suivi d'un redresseur, un détecteur quadratique, qui va prendre le carré du signal, eh bien, ça va faire un petit peu comme un photomultiplicateur. En fait, ça ne fait pas exactement comme un photomultiplicateur, parce que la diode, Le photomultiplicateur, ici, prend ce produit normal. Ici, on a C croix après C. On compte le nombre de photons. Ici, on a une combinaison symétrique du produit SS croix et S croix S. Contrairement au photomultiplicateur, l'amplificateur rajoute du bruit. Ce champ ici, ce champ E croix ici, c'est le bruit rajouté par l'amplification. Et maintenant, si on fait les mêmes calculs que précédemment, eh bien, on va s'apercevoir que la corrélation existe toujours. Il y a bien une anticorrélation. Donc, après ces deux amplificateurs, on va bien avoir des signaux anticorrélés. Mais la présence de ce bruit rajouté par l'amplificateur, qui est d'origine quantique, hein, c'est le bruit quantique dans la voie image de l'amplificateur. Donc, il n'y a absolument aucun désordre dans cette expérience. Il y a toutes les voies, toutes les ports contiennent un vide de photons, à part ce port-là qui contient un photon. Eh bien, on a une perte de corrélation. Au lieu d'avoir moins 1, on a moins 1 neuvième. Donc, on a un contraste plus faible. Contraste plus faible, c'est déjà relativement miraculeux qu'il reste quelque chose. On n'a pas tout, on n'a pas tué tout l'aspect photonique de cette expérience, mais le contraste est fortement réduit. Une façon de voir la chose, c'est que, eh bien, il y a ces pores supplémentaires par lesquels s'introduit du bruit dans cette expérience. La leçon qu'on tire de cette analyse, c'est cet effet Hanbury-Brown et Twiss utilise des détecteurs qui sont des détecteurs propres dans la base des photons. Le photomultiplicateur est heureux quand il cherche à distinguer l'état à zéro et l'état un photon. Il n'est pas très bon quand il s'agit de détecter, par exemple, des états cohérents, où là, il va rajouter un bruit supplémentaire. Donc, en quelque sorte, ici, on a pris une expérience dans laquelle les conditions limites ici sont données par des... On a introduit des états de Fock dans le système, on a introduit des états à un nombre de photons bien déterminé, puis en plus, après, on utilise des détecteurs dont la base propre est plutôt les états cohérents. Donc, c'est pas très sain, et finalement, la pénalité qu'on reçoit, c'est cette perte de contraste. Alors, je vais poursuivre sur ce thème dans la leçon suivante. On commence à avoir un aperçu du lien qu'il y a entre amplification et mesure. Je vais poursuivre ce thème dans la prochaine leçon et je vais montrer que ces amplificateurs limités quantiquement peuvent être effectivement optimaux pour les mesures, pour certaines mesures, en respectant certaines conditions. Et par contre, ils vont devenir non optimaux si justement on ne fait pas attention à limiter, disons, l'influence de ces ports aveugles par lesquels s'évacue l'information. Voilà, je vous remercie de votre attention.